Lizzie présente La fileuse d'argent de Naomi Novik, lu par Marie Dubled, Aricia Dubois et Sophie Pironnet, avec la participation de David Macaluso, Nathalie Hons et Aurélien Ringelheim. Chapitre 1er. La véritable histoire est loin d'être aussi belle que celle que vous avez entendue. La véritable histoire, la voici. La fille du meunier aux longs cheveux d'or veut séduire un seigneur, un prince, le fils d'un notable. Aussi se rend-elle chez le prêteur, et y emprunte-t-elle une bague, un collier, qui la font paraître à son avantage à la fête du village. Et comme elle est resplendissante, le seigneur, le prince, le fils d'un notable, la remarque, danse avec elle, et la culbute dans un grenier à foin quand l'heure n'est plus à la danse. Après quoi, il rentre chez lui et épouse la riche héritière que sa famille a choisie pour lui. Puis la fille du meunier, spoliée, raconte à tous que le prêteur est en affaire avec le diable, et les villageois le chassent, lui jettent même peut-être quelques pierres. Ainsi peut-elle au moins garder les bijoux pour se constituer une dot et donner sa main au forgeron, avant que naisse son premier enfant au terme d'une grossesse un peu courte. Tel est le sujet de la véritable histoire. Comment on paie ses dettes? Ce n'est pas comme ça qu'on la raconte, mais moi je la connais. Mon père était prêteur, voyez-vous. Il n'était pas très bon dans son domaine. Si vous ne lui rendiez pas son argent en temps et en heure, il ne vous faisait pas la moindre réflexion. Ce n'est que lorsque nos placards étaient vraiment vides, que nos chaussures se décomposaient sous nos pieds et que ma mère le sermonnait à voix basse après l'heure du coucher, qu'il allait, malheureux, frapper à quelque porte et demander presque en s'excusant qu'on lui rende une partie de ce qu'on lui devait. Et s'il y avait de l'argent dans la maison et que quelqu'un lui réclamait un prêt, il détestait dire non, même s'il n'y en avait pas assez pour nous. Tout son pécule, principalement la dot de ma mère, se trouvait donc chez d'autres. Et tous, quoique conscients de la honte qu'ils auraient dû en concevoir, s'en félicitaient. Aussi racontait-il souvent l'histoire de la fille du meunier, surtout quand j'étais à portée de voix. Le père de ma mère était également prêteur, mais lui excellait. Il vivait à Visnia, 40 000 plus loin sur la vieille route commerciale criblée de trous qui s'étirait de village en village, comme une corde pleine de petits nœuds vicieux. Maman m'emmenait souvent le voir, quand elle avait de quoi payer une place assise à l'arrière de la charrette ou du traîneau de quelques marchands ambulants. Il fallait changer 5 ou 6 fois de véhicule avant d'arriver à destination. Parfois, nous avions un aperçu de l'autre route entre les arbres, celle qui appartenait au Starik, miroitante comme la surface de la rivière en hiver quand la neige en était absente. « Ne regarde pas, Myriam », me disait ma mère. Mais je regardais quand même, du coin de l'œil, en espérant que nous ne nous en éloignerions pas trop, car le trajet s'en trouvait raccourci. Le charretier fouettait les chevaux et les pressait jusqu'à ce que la route disparaisse de notre vue. Une fois, nous avions entendu les sabots derrière nous, venant de l'autre route, un bruit rappelant celui de la glace qui se fend. Notre roulier avait cravaché les chevaux jusque sous le couvert d'un arbre, et nous nous étions terrés dans la charrette, au milieu des sacs, le bras de ma mère enroulé autour de ma tête, pour que je ne puisse même pas risquer un regard. Il nous avait dépassés, sans s'arrêter. Le marchand n'était pas riche, sa charrette ne contenait que de tristes pots en fer blanc, et les chevaliers Starik ne se dérangeaient que pour l'or. Le vacarme métallique des sabots s'était éloigné et un vent tranchant s'est élevé, si bien que lorsque je m'étais redressée, le bout de ma fine natte était blanc de givre, tout comme nos dos et la manche du bras sous lequel ma mère m'avait cachée. Mais le gel avait fondu rapidement, et le colporteur avait dit à ma mère « Bien, nous nous sommes assez reposés, n'est-ce pas ?» comme s'il avait oublié pourquoi nous nous étions arrêtés. « Certes, » avait répondu ma mère en hochant la tête, manifestement oublieuse elle aussi. Et l'homme était remonté sur son banc et avait encouragé de la voix les chevaux à reprendre leur route. J'étais assez jeune pour n'en garder qu'un souvenir flou, et pas encore à l'âge de me soucier davantage des Starik que de mon estomac vide et du froid qui mordait à travers mes vêtements. J'étais restée muette pour ne pas retarder davantage la charrette, car j'étais impatiente d'arriver en ville, chez mon grand-père. Ma grand-mère avait toujours une nouvelle robe pour moi, brune et d'une coupe simple, mais chaude et de bonne qualité. Et chaque hiver, une paire de chaussures neuves en cuir qui ne me meurtrissaient pas les pieds et qui n'était pas troué ou rapiécé aux entournures. Elle me gavait 3 fois par jour. Et le dernier soir avant notre départ, elle me préparait toujours un gâteau au fromage. Son gâteau au fromage. Doré à l'extérieur, épais, blanc et friable à l'intérieur, qui avait très légèrement le goût de pomme et qu'elle décorait de raisins secs blonds sur le dessus. Après que j'avais lentement savouré jusqu'à la dernière bouchée d'une part plus large que ma paume, on me couchait à l'étage, dans la grande et confortable chambre où ma mère et ses sœurs avaient dormi, enfants, dans le même lit étroit sculpté de colombes. Ma mère s'asseyait près de la sienne, devant la cheminée, et posait la tête sur son épaule. Elle ne parlait pas, mais quand, un peu plus grande, je restais un peu avec elle, je voyais à la lueur des flammes leurs joues striées d'une rigole humide. Nous aurions pu y vivre. Il y avait de la place chez mon grand-père, et nous y étions les bienvenus. Mais nous retournions toujours à la maison, car nous aimions mon père. Sa gestion de nos finances était déplorable, mais il débordait de chaleur et de gentillesse, et il faisait son possible pour compenser ses insuffisances. Il passait la plus grande partie de son temps dehors, dans le froid, à chasser notre nourriture et à ramasser du bois de chauffe. Et quand il était à la maison, il mettait toute son énergie au service de ma mère. Chez nous, les tâches ménagères n'ont jamais été un travail de femme. Et quand la faim nous tenaillait, il était le premier à en souffrir, car il ne rechignait jamais à vider son assiette pour remplir la nôtre. Lorsqu'il s'asseyait près du feu le soir, ses mains, jamais au repos, taillaient dans le bois un nouveau jouet pour moi, ou quelque chose pour ma mère, cuillère ou décoration de chaise. Mais l'hiver était toujours long et rigoureux, et d'aussi loin que je me souvienne, chaque année était pire que la précédente. Notre bourg n'avait pas de rempart, et presque pas de nom. Certains l'appelaient Pakel, du fait de sa proximité avec la route, et ceux qui ne voulaient pas entendre parler des Starik leur rétorquaient vertement qu'il se nommait Pavis, parce qu'il se trouvait près de la rivière. Mais comme il ne serait venu à l'idée de personne de le placer sur une carte, aucune décision n'a jamais été arrêtée. Quand nous en parlions, nous disions simplement « le bourg ». Pour les voyageurs, il était idéalement situé au tiers de la distance séparant Visnia de Minask. Et la petite rivière qui traversait la route d'est en ouest permettait à de nombreux fermiers d'acheminer leurs marchandises par bateau. Le jour du marché était toujours très animé, mais là se limitait notre importance. Aucun seigneur ne nous prêtait grande attention, et encore moins le tsar à couronne. J'aurais été incapable de vous dire pour qui travaillait le collecteur d'impôts, jusqu'au jour où, lors d'une visite chez mon grand-père, j'ai entendu dire que le duc de Visnia était mécontent de ce que les recettes de notre bourg baissaient lentement mais sûrement d'année en année. Le froid qui sourdait des bois de plus en plus tôt nous volait nos récoltes. L'année de mes 16 ans avait aussi vu venir les Starik, durant ce qui aurait dû être la dernière semaine de l'automne, avant que nous n'ayons rentré l'orge tardive. Jusqu'alors, leur raid occasionnel se limitait à l'or. Les gens racontaient des histoires de rencontres fugaces à moitié oubliées, évoquaient les cadavres qu'ils laissaient derrière eux. Mais ces 7 dernières années, avec les hivers qui empiraient, ils se montraient de plus en plus voraces. Quelques feuilles s'accrochaient encore aux arbres quand ils avaient quitté leur route pour rejoindre la nôtre, gagné le riche monastère 10 000 milles en aval du bourg, tué 12 moines, voler les candélabres en or, les calices, toutes les icônes dorées, et emporter leur butin dans ce qui leur tenait lieu de royaume au bout de leur route. Cette nuit-là, le sol avait gelé à leur passage, et chaque jour par la suite, la forêt avait soufflé une bise chargée de flocons piquants. Notre petite maison se dressait seule à la périphérie du bourg,
sans aucun autre mur à proximité pour contrer le vent,
et nous avions souffert comme jamais du froid et de la faim. Mon père continuait de se trouver des prétextes pour éviter ce travail qu'il ne supportait pas. Mais même quand il avait fini par se secouer sous la pression de ma mère, il n'était revenu qu'avec une poignée de pièces, en disant pour leur défense « L'hiver est mauvais, pour tout le monde !» Alors que, je l'aurais parié, pas un de ses débiteurs ne s'était même embarrassé d'une telle excuse. Le lendemain, quand j'étais allée porter notre miche chez le boulanger pour la faire cuire, j'avais entendu des femmes qui nous devaient de l'argent parler des festins qu'elles prévoyaient de cuisiner, des friandises qu'elles achèteraient au marché. Le solstice d'hiver approchait. Tout le monde voulait mettre un mets de choix sur sa table. Quelque chose qui sortait de l'ordinaire pour la fête. Leur fête. Ils avaient donc renvoyé mon père chez lui, les mains vides, tandis qu'une vive lumière et l'odeur de la viande rôtie filtraient par le moindre interstice de leur maison. Et que j'échangeais contre un vieux penny, une miche grossière de pain à moitié brûlée, qui n'était pas du tout celle que j'avais faite.